9h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut Charline.
Ah, enfin, vous voilà. Meuf, il est 9h.
Bah, on n'est pas du tout en retard, hein, Charline.
Ah, je sais, c'est juste que je vous attendais parce qu'en regardant les documentaires de notre invité sur le bonheur à l'école, là, j'ai eu une vision.
Oula.
Blanquer avec un slip sur la tête.
Non, alors à partir de maintenant, on va prendre un temps en début de journée pour mieux nous connaître.
Ah bon,
vous voyez,
bah, d'habitude, on fait ça en fin de journée, ça s'appelle l'apéro.
Oh. Ah bah, je savais que t'allais dire ça, je te connais trop bien, Juliette.
Non, allez. Donc, on se bande les yeux.
Quoi?
Non, alors non. Alors, moi, j'ai l'air détente, mais 50 nuances de gris, c'est pas du tout mon délire, en fait.
Je jure, mais rien à voir. On doit apprendre aussi à mieux connaître notre environnement. Donc les yeux bandés comme ça au toucher.
Ah oui, donc je vois le truc. Genre les yeux fermés, là je ferme les yeux comme ça. Et Ah non, mais c'était ma pile de livres.
Voilà, c'est ça. Mais vous faites pas d'efforts là. Allez, Guillaume te bande les yeux.
Oui.
Oh, j'y vais, mais j'ai peur.
Et voilà. Et je te tends un objet et tu le touches.
Bon, si quelqu'un de la direction rentre maintenant dans le bureau, je me désolidarise du projet.
Oui, d'accord.
Alors, c'est mou.
Ouais.
Et puis dur. C'est une forme.
Non, en fait, ça y est, je suis désolidarisé là. Ça y est.
Arrête, Guillaume, enfin, c'est.
Un micro.
Voilà quand même le pilier de notre environnement de travail, le micro. Allez, bon, Guillaume.
Non.
Bon. Alors, je te bande les yeux. Voilà, Guillaume, à qui appartient cette tête?
Alors, cette tête-là, je secoue. Ouais, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est Juju.
Tellement méchant.
Bah, facile.
Ah bah merci bien, Charline, avec tes méthodes New Age. Si ça dit que c'est cruel, je les teste toutes.
Mais non,
Ah bah zut, j'avais pas prévu ça.
Bah non, moi non plus, quoi. On fait quoi?
Ah bah, alors, on revient au basique, hein. Au boulot. France Inter et bienvenue chez les petits yogis du rire, dont voici la devise: l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit et Guillaume Meurice est de mauvaise foi. Aristote.
Ah oui, c'est Aristote qui a dit ça.
Ça vient du fond des âges. Voici le sommaire. Les étudiants contraints de faire la file à l'aide alimentaire ont été ravis d'apprendre que le président envisage de leur faire payer l'université, jusque-là quasiment gratuite. À quoi peut ressembler le modèle libéral pour l'université?
Alors aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence.
Une commission parlementaire américaine s'efforce de faire la lumière sur la journée du 6 janvier 2021, la journée qui aura vu l'assaut du Capitole. Les réseaux sociaux ont-ils malgré eux aidé l'émeute? Les émeutiers parfois armés voulaient-ils en arriver à un coup d'État? Et puis d'abord, quelles armes?
Et vous avez des armes?
Non.
Pas besoin d'armes. On a une nouvelle technique. On enfile des habits de couleur vive pour faire croire à l'ennemi qu'on est venimeux.
Les Américains, encore une fois, ont banni le terme World Music des Grammy Awards l'an dernier. Musique du monde était jugée trop colonialiste. En France, on s'est contenté de dégager cette catégorie des victoires de la musique pour la ranger dans les victoires du jazz. Pourquoi la world music est un genre à part et est-ce contrariant?
Putain, mais Yannick Noah, il me saoule lui aussi là.
C'est pas Yannick Noah, il a des chaussures.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et à nos côtés, Charline, une équipe adepte des nouvelles méthodes d'enseignement. Il paraît que les sons calmes de la nature facilitent l'apprentissage. Alors on va dire qu'avec elle, c'est le moment de la récré, puisqu'elle nous apporte les sons de la culture. Voici la vie brillonnante, Alice Afanoukoé.
Alice?
Alice.
C'était bien jusque-là, mais Juliette, enfin.
C'est vie brillonnante.
C'est ça.
J'enlève vie brillonnante et ça donne Alice Afanoukoé.
Bonsoir à tous. D'allergie.
Rien à voir.
Un groupe qui s'appelle The Allergies.
Ah d'accord. Ensuite, celui qui se comporte avec ses interviewés de la rue comme les enseignants avec les mômes d'une école Montessori, il leur tend un miroir à leur hauteur. Est-ce que ça les rend meilleurs? Non, mais non. Nous, qu'est-ce qu'on rigole. Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour tout le monde. Je vais vous parler du rapport Oxfam sur les inégalités qui s'arrangent pas vraiment. Donc je suis allé voir les gens pour savoir s'ils étaient choqués par les ultra-riches.
Pas du tout. Les riches, ils sont faits pour s'enrichir.
Ben oui, les riches, c'est fait pour être très riches. Merci de Funès.
Enfin, à la rentrée, on voulait tous un gentil labrador pour gérer le stress de la vie dans notre classe. Charline a dit non. Mais en revanche, tous les 15 jours, vous aurez Thomas VDB et sa soyeuse fourrure capillaire. Bonjour Thomas.
Bonjour les amis. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Molière, évidemment. Oh. J'adore Molière avec les classiques. Scapin, Scapin, t'as dû donc arrêter de faire toutes tes fourberies. C'est fourberies de Scapin, évidemment.
Beaucoup
tout à l'heure.
Et voici celui qu'on va envoyer au tableau pendant une heure. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Martin Messonnier.
Oui,
ouais. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
par Jupiter.
Bonjour et bienvenue Martin Messonnier.
Bonjour.
Vous menez plusieurs carrières. Vous avez été notamment producteur de Fela Kuti ou Manu Dibango dans les années 80. Vous êtes aussi compositeur, auteur, journaliste et réalisateur. Vous venez aujourd'hui nous proposer une série documentaire intitulée « Le bonheur à l'école ». Vaste sujet à découvrir sur Canal Plus Kids et MyCanal à partir du 30 janvier, Juliette.
Donc vous vous baladez dans une grande variété de pays européens et puis même extra-européens. Vous allez voir différentes écoles, différentes méthodes, toutes plus innovantes les unes que les autres. Laquelle vous a donné, vous, envie de retourner à l'école ?
Mais en fait, toutes. En fait, j'ai choisi les écoles dans lesquelles j'aurais eu envie d'aller quand j'étais petit, quoi.
Ok, vous avez étudié d'abord en théorie et vous vous êtes dit,
absolument,
je vais aller poser
voilà,
ma caméra là-bas.
Je suis allé chercher les écoles qui me branchaient, quoi. Et en fait, j'ai regardé aussi les écoles qui me branchaient et celles qui avaient les meilleurs résultats. C'est-à-dire que non seulement elles sont sympas, mais en plus, on voit que les résultats sont les meilleurs. Donc ça c'est parce que évidemment, on dit souvent, ouais, les écoles, il y a des écoles alternatives, c'est n'importe quoi. Les enfants, il faut vraiment qu'ils soient bien lissés, faut leur mettre une blouse, selon certains candidats aux élections et tout ça. Et en fait,
c'est sûr qu'on voit pas beaucoup d'enfants en blouse dans ce documentaire.
Non,
clairement.
Absolument. Et en fait, moi, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe. Et là où ils ont les meilleurs résultats, donc. Et donc, en Estonie, par exemple, en Europe, qui ont les meilleurs résultats à tous les niveaux, que ce soit en lecture, en maths, en physique et tout ça, on s'aperçoit qu'ils ont complètement réinventé le paradigme de l'éducation et qu'ils sont plongés complètement dans le futur, alors que j'ai l'impression que nous, on regarde vraiment vers le passé.
Alors, il faut préciser qu'on comprend dans le documentaire qu'en fait, l'Estonie a commencé dès les années 90
absolument
à basculer l'enseignement d'à peu près tous les élèves dans l'informatique. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus fait envie, c'est les mômes qui se roulent dans la boue.
Oui, dans la forêt.
Charline et moi, comme par hasard, on a bloqué sur le même
point. Il faut avoir une forêt pas loin de l'école.
Voilà. Et ça, c'était à Berlin, c'est une école tout à fait publique. Tout à fait public, tout à fait normal, agrémenté du ministère et tout ça. Et en fait, ils se sont aperçus que finalement, il y avait des enfants qui étaient surdoués et d'autres qui étaient des enfants avec des difficultés, enfin des handicapés, quoi. Ils se sont dit, on va les mettre ensemble et on va mélanger les âges. On va les prendre de 6 à 9 ans. Et en fait, on les met dans la forêt pendant 5 heures par jour.
Et celui qui survit...
Alors, je peux vous dire que moi, pendant le tournage, j'étais gelé. J'étais absolument gelé, frigorifié. C'était dur de les suivre. Mais les gosses étaient... Donc, ils prennent les cours. Alors, il y a le papier qui peut gondoler parce qu'il pleut. Hein. Il pleuvait pendant le tournage.
Ah,
Ils font cours dans la forêt. Ah, okay. Et alors, on note sur du papier qui commence à mouiller, à baver et tout ça. Mais par contre, les gosses sont à donf. Et en fait...
Et les enseignants aussi.
Ouais. Et alors, les enfants travaillent en groupe. Et les grands donne l'exemple aux petits, et il y a une espèce de solidarité, et il n'y a pas de compétition, quoi. Il y a absolument aucune compétition.
Non, à chaque fois, en tout cas, ce qui est commun avec toutes les écoles, c'est qu'il y a la notion d'entraide, c'est-à-dire entraide entre évidemment les enseignants et les élèves, mais aussi entre les gamins. Il y a une école à Courbevoie qui avait affaire à des problèmes de violence qui commençaient à monter. Notamment dans la cour d'école. Et en fait, ils ont inventé un truc ils mettent les gosses comme médiateurs.
C'est ça. Et alors, c'est la communication non violente. On leur apprend à être médiateurs comme des médiateurs pros. Professionnel de tribunal, parce qu'en fait, finalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Et à 6 ans, ils comprennent très bien, et ils se font leur médiation, et c'est absolument fascinant à regarder. Enfin, c'est même... Bon, là, dans le film, on en a mis un tout petit peu, mais j'en ai vu plusieurs, des médiations. C'est très émouvant, quoi. C'est vraiment... Il y a un côté... On se dit les choses vraiment, et puis on se les dit avec puissance, quoi. Donc
c'est émouvant, et en même temps on assiste, effectivement, on voit des visages. Moi, ce qui m'a beaucoup troublé à la fin des 3 épisodes, c'est qu'on voit quand même beaucoup de gamins à l'école et avec des visages heureux, avec des têtes d'enseignants heureux aussi. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément les images que je gardais moi de l'école.
Bah, c'est-à-dire que là, ce que j'ai vu, qui est fascinant sur toutes les écoles que j'en ai visitées quand même, je crois 14 là pour la série, Et c'est pas fini parce que je continue en plus sur pour internet, j'en fais d'autres en plus. Et donc on doit être plutôt vers 19 maintenant. Et à chaque fois, ce qui est fascinant, c'est le travail en équipe. C'est-à-dire quand on travaille en équipe, ça change tout. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les gosses les uns contre les autres. Pour être les meilleurs, avoir celui qui a la meilleure note, le prix, et tout ça. Et alors, en fait, les écoles qui marchent, c'est ceux qui font travailler les gosses ensemble. Il n'y a plus de harcèlement, parce que le harcèlement, on le repère immédiatement. Ils s'entraident, et les résultats sont meilleurs. Donc, voilà, je comprends pas, parce qu'en Europe, il y a plein de pays qui font ça déjà. L'Angleterre fait ça, les pays scandinaves font ça, et nous, on est encore... à avoir les enfants qui travaillent les uns tout seuls contre les autres.
L'éducation nationale française, quand même, enfin, l'excellence française, les classements, mais enfin, mais vous êtes fous.
Les élites.
Martin Messonnier, cette série documentaire s'intitule « Le bonheur à l'école ». Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup du sourire et de l'entraide. C'est à découvrir à partir du 30 janvier sur Canal Plus Kids et MyCanal, et ensuite donc sur Internet.
Sur Internet, suite. C'est encore autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. C'est un jour. C'est
Hashtag
le...
Martin Messonnier. Ouais. Vous avez compris. Allez, on écoute les Clash.
C'est une bonne idée.
Par Jupiter avec Martin Messonnier, journaliste, auteur, producteur, réalisateur, compositeur, et Juliette pour l'entourer.
Alice Afanoukoé.
Oui, c'est ça, c'est mon pseudo.
Aline Afanoukoé, Thomas VDB.
Bonsoir.
Et le misérable Guillaume Meurice.
Moi j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Donc, je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Parce qu'à part moi, il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage.
Le journal de presque 17h17.
Miss France 2022 et Miss Île-de-France.
La portion, la vache qui... Nutri-Score vache qui rit, allez, c'est parti.
Mais oui, c'est 2022, c'est fou. Allez, on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera d'Arnaud Montebourg qui va parler d'un instant à l'autre.
Là, je suis excitée comme Eric Zemmour à un concert des Bruno Magritte.
Attendez, on parlera aussi...
D'Arnaud Montebourg, oui, il va dire, il va parler.
Non, calmez-vous.
Mais comment voulez-vous que je vous calme, hein, qu'Arnaud Montebourg, il va parler d'une minute à l'autre, le destin de la France va basculer.
Calmez-vous, enfin, on va parler, je peux le dire ou pas?
Arnaud, vous voulez parler d'Arnaud Montebourg? vous, bien sûr. Allez, parle, Arnaud. Je vais jamais tenir. Il va parler,
moi non plus. Respirez. Respirez par le ventre, parce que sinon, moi non plus.
Allez.
Commencez pas trop vite, trop fort.
Non, d'accord, mais bon, il va parler. Bon, allez, on commence par une éphéméride.
Oui, aujourd'hui, c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année.
Ce que Anne Hidalgo appelle un jour normal. Quoi.
Effectivement, voilà. Anne Hidalgo qui a déclaré que la candidature de Christiane Taubira allait créer la division et la confusion à gauche.
Attendez, Hidalgo, c'est bien celle qui dit qu'elle maintiendra sa candidature coûte que coûte alors qu'elle est à 3% dans les sondages.
Ouais, pourquoi ?
Non, pour rien. Et Arnaud, il a parlé ou pas, Arnaud ?
Oui, il va parler, mais calmez-vous. Okay, attendez, d'accord. Allez. Hier, Jean-Luc Mélenchon a déployé lors de son meeting à Nantes des images à 360 degrés de la Terre, aussi une plongée dans les câbles Internet et un stimuli olfactif.
Oui, il a terminé son meeting en déclarant « Elon Musk, c'est moi !»
Et hier, Manuel Valls était l'invité de BFM et il s'est exprimé sur son avenir.
Gouverner de nouveau, alors je pourrais dire servir mon pays. Non, gouverner de nouveau, je suis fait pour ça. J'aime ça, j'ai cette passion. Je suis un politique jusqu'au bout des doigts.
Même Jean-Vincent Placé trouve qu'il force un peu là. Hein. Vraiment, c'est de pire en pire.
Allez, on enchaîne.
Allez, avec Montebourg, on enchaîne avec Arnaud. Il a...
Non, pas encore.
Vous me dites quand il parle.
Je surveille.
Non, parce qu'en vraiment, il va parler. Hein.
Édouard Philippe, à présent, il a suspendu la participation de son mouvement Horizon à la maison commune des partis macronistes en déclarant ne pas comprendre la stratégie de la majorité.
Édouard Philippe aurait même été aperçu dans un bricomarché du Havre en train d'acheter un gilet jaune.
Une enquête administrative est en cours pour des accusations de harcèlement de la part de Nathalie Elimas, la secrétaire d'État à l'enseignement prioritaire.
Oui, ça c'est clair. Ouais.
Comment ça c'est clair?
Déjà, faire croire à tout son cabinet qu'il existait un poste de secrétaire d'État à l'enseignement prioritaire, déjà c'est du harcèlement.
Jean-Jacques Bourdin, lui, il est accusé d'avoir essayé d'embrasser une journaliste à plusieurs reprises, mais il était confirmé à son poste par Marc-Olivier Fogiel, son patron, donc qui explique qu'il n'y a rien qui l'empêche de faire son travail.
Et non, il n'y a rien du tout, enfin, à part le respect de la parole des femmes et la dignité humaine, mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a rien du tout qui empêche Jean-Jacques de continuer son travail.
Les enseignants français trouvent leur classe trop bruyante et 16% d'entre eux ont déjà pris un arrêt maladie pour cette raison.
Si on devait se mettre en arrêt maladie à chaque fois que Juliette Arnaud rigole, on ne serait plus jamais à l'antenne, je veux dire, à un moment donné.
On n'est plus, ça y est.
Voilà.
International, au Japon, des... Moi, j'y arrive plus.
Moi,
j'y arrive plus.
Allez, arrêt maladie. Allez, terminé. Je pose mon arrêt maladie.
Je peux plus.
C'est pas...
Arrêtez. On peut plus.
On n'en peut plus. Alors.
Allez, malgré mon ITT. Page internationale. Mais arrêtez. International. Au Japon, des entreprises aident leurs employés célibataires à trouver l'amour.
Oui, à France Inter, on fait la même chose.
Ah bon, comment ça?
Croyez que Demorand, il invite Bruno Retailleau une fois par semaine dans la matinale? C'est pas pour ses idées, enfin, ça, il ne pas naïf.
Elle est près de Mâcon, un boulanger cache dans ses galettes des fèves en forme de pénis.
Entre nous, on peut se le dire, la reconversion de Nicolas Hulot, c'est pas ouf.
En effet.
Et Montebourg, il a parlé,
non,
ça y est, il a parlé.
Non.
Mais il avait promis qu'il parlait, là.
Mais vous croyez encore les promesses de la gauche, vous? Quelle naïveté. Merci Guillaume Meurice.
Mais s'il parle, on interrompt l'émission. Breaking news.
Bien sûr. Enfin, sauf si Juliette rigole, auquel cas on est en ITT. Allez. Martin Messonnier, en notre compagnie, on va aborder ce premier thème. Le gouvernement a commencé par faire payer aux étrangers l'accès aux études en France. Bientôt, ce sera aux étudiants français de raquer pour pouvoir s'asseoir dans un amphi bondé. Car le président a déclaré, on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Sinon, effectivement, comment rester compétitif et briller dans les classements internationaux?
Alors, un mot sur mon parcours. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je me suis intéressé, moi aussi, au financement des études des jeunes. J'avais un projet de crowdfunding et en creusant un peu, je me suis aperçu que 92% des étudiants qui n'avaient pas obtenu de prêt bancaire n'en avaient en fait pas demandé, n'en avaient pas besoin. Partant de ce constat, j'ai décidé de m'intéresser à autre chose.
Chris Esquière, lors de sa conférence TEDx. Martin Messonnier, vous avez parcouru plein de pays pour aller chercher les pédagogies alternatives dans les écoles.
Et pas alternatives, nouvelles.
Enfin, oui, nouvelles. Parfois dans la boue, dans la forêt, elles ont l'air un peu alternatives.
Oui, oui, mais elles ne sont pas. C'est des écoles publiques.
Ouais, parce qu'il y en a, c'est la blouse à l'école, il y en a d'autres, c'est la boue à l'école. Hein. On était quand même à un moment. Mais ça, il y a 67 millions de Français, 66, je ne sais pas combien on est. Ouais, combien on est, je me mets dedans. on t'a un avis sur l'école, mais parce qu'on y est tous allés, et que voilà. Sur l'université, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Vous êtes penché sur l'apprentissage. Donc ici, c'est le savoir. Tout simplement, est-ce que la première barrière pour l'accès au savoir, c'est l'argent, c'est les sous?
Non, je pense que, enfin, moi, je pense que le savoir, c'est savoir apprendre à apprendre. Ce qui est important, c'est de savoir chercher et d'apprendre tout seul. Je veux dire, Daniel Pénac, par exemple, oui. Qui était un cancre, je ne vais pas dire que c'est un idole, mais c'est un confrère. Ouais. Et en fait, moi, j'ai réussi à travailler dans la vie avec pas mal de succès en faisant ce que j'avais envie de faire et en apprenant à apprendre. Mais ça ne veut pas dire ne pas travailler. Je pense qu'on travaille plus quand on apprend à apprendre. Que si on apprend, mais au lieu de regarder la télé, on lit des livres, on apprend, on recherche, on va voir des gens compétents, on va voir des mentors. Mmh. Donc, je pense que là où l'époque a changé, on n'est plus au 19e siècle, on n'est plus au 20e siècle, on est au 21e siècle. Et là, au 21e siècle, il y a un accès à la connaissance qui est partout. Il y a l'internet, là bientôt on va passer au métaverse. On est dans les réseaux sociaux sont d'une puissance absolument inouïe et en fait on est toujours à se dire voilà l'université c'est un prof avec 100 élèves qui doivent écouter et prendre des notes alors qu'en fait ils peuvent télécharger le cours sans problème. En Angleterre c'est pas comme ça. En Angleterre c'est il y a un prof avec 12 élèves. Ils ont tous lu le cours, et puis il leur dit, maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et donc, ils vont faire des travaux pratiques. Voilà, c'est comme ça que je pense que l'université pourrait se renouveler un peu.
Et là, il y a encore une forme d'obsession des classements. Alors, il y a deux choses. Emmanuel Macron semble vouloir un peu abolir la distinction entre grandes écoles qui forment les élites et universités. Il voudrait des universités lieux d'excellence pour... Que ce soit les universités qui soient le lieu d'excellence, mais il y a aussi une sorte d'obsession avec le fameux classement de Shanghai des universités.
Oui, c'est.
Et ça, c'est depuis qu'on est gamin à l'école en France, c'est les classements. Et puis quand on est à l'université, c'est pas terminé.
Oui, c'est extraordinaire parce que. Alors, je reviens sur le métaverse, par exemple. Le métaverse, c'est en fait une invention de Canal+, il y a 15 ans, non, pas 15 ans, il y a 25 ans. Ça s'appelait Le Deuxième Monde. Et c'était des illuminés géniaux, c'était Philippe Ulrich et Alain Lediberdère qui avaient monté ce truc qui s'appelait Le Deuxième Monde. C'était un monde parallèle dans lequel on pouvait se balader et tout ça. Évidemment, on les a pris pour des fous. Et maintenant, on a Mark Zuckerberg qui fait le métaverse 25 ans plus tard.
Oh, il a plagié Canal+. Et donc, on étudierait dans le métaverse.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là... Il y a un moment où, oui, au niveau des études, c'est-à-dire qu'on ne sait pas prendre le talent là où il est, quoi. Mmh. C'est-à-dire que le talent, c'est plus... Les choses ont changé, quoi. On est au 21e siècle, et donc il ne faut pas penser 20e siècle. Mmh.
Voilà pour votre passion aussi pour la pédagogie qu'on a pu déceler. Il y a aussi le compositeur en vous et le producteur de musique. Et Aline Afanoukoé, ça vous fait un sacré défi, ça.
Ah oui, mais je gère. Êtes-vous prêts, mes amis? Are you ready?
Yes.
Pour faire connaissance avec The Allergies. Accrochez-vous à la rampe. Ça va secouer fort aujourd'hui avec ce duo électrique originaire de Bristol en Angleterre, DJ Money Shot et DJ Rackabit. En anglais, on dirait plutôt Rackabit. Bon. En fait, ils cumulent des millions d'écoutes sur les plateformes, donc ils forment The Allergies. Et leur objectif avec ce cinquième album est de nous faire avancer, danser sur la terre promise. « Promised Land, c'est le titre de cet opus, une terre fertile où le tandem cultive le gospel, le hip-hop, hip-hop à l'ancienne, le disco et la soul des années 70. Imaginez là la Soul Train Line. The Allergies, c'est comme si Moby avait rencontré Fatboy Slim pour créer quelque chose de nouveau. I like it like. Hein? On dirait, hein? Mais c'est pas ça.
Rien à voir.
Vous allez sortir les boules à facettes parce que ces collectionneurs de vinyles se sont donnés pour mission de faire revivre les sons funk vintage. Irrésistible. Dans l'album, on retrouve le flow inimitable du rappeur Lyrics Born, sommité de la région de Bay Area. Il y a aussi les prouesses d'un autre héros du rap de Los Angeles, Andy Cooper, sur ce titre Utility Man. Come on. Ready? We got to go back. Back long ago, down a long road to a hospital where a doctor strolled up to my mom and goes, what we know about your son is impossible. She was alone. The doc tried keeping the calm, saying, ma'am, your little baby boy is healthy and strong. But when he heard the monitor beep, he started to speak, and I really couldn't believe it. He was keeping the beat. So it began the life of a utility man, always looking to lock into any rhythm that ran. Channeling rap, stretching out, spanning the gaps, dismantling my opponents. I'm the man of the matches. So flex with the exquisite recklessness you want to test, so you step to the press. I was off on press, yelling next as I eat them for breakfast. The exit the set like Emilio Estevez. Still number one, so I kill him until there were none. A villain you better be willing to run from. Until the hunt, diving the mine alone, and a wireless column, and all the rap at the show on the side. I'm dying to go with the vibe on the road, I fly with style and flow. The blood in my veins is colder than ice, diffusing the mic like an explosive device to rock at any speed, any topic, on point. Delivering for the people, if you need it, I got it. I'm the utility man. Master of none, but you won't be hearing that mess after I'm done working the stage or putting funky words to a page. Take your pick, and either way, I will be sure to amaze. And when I make a track, I craft and innovate to shape a drum break. I catch and recreate as I collaborate with Bristol's finest. The beat's banging, the music's timeless. We're the groom and the man, rolling like we're moving a brand. Loading gear, ain't no room in the band. We're bringing the boom in the band, but the band will be rocking the loop. And the block can see me sharp and chopping the meat for the creep who wants a beef. You talking to me? You talking to me? My lung capacity has to be second to none when I rap. There'll be no one on after me. Technically, I won't be trapped in the category. Music is magic, I'm basking in raps. Old school, modern, or futuristic. Philosophical, topical, pugilistic. Drumming to comedy, honor me when I'm on the lead. Call me the top ramen, a common, I'm an anomaly. So get your needle and drop it. On a record this pack, one more electricity than a socket. Just listen to the people applauding. I'm always aiming to please. If you need it, I got it. I'm the utility man. 100% positif et calibré pour le dance floor de votre salon. Hein, ce disque est la bande son de vos soirées d'hiver, seul ou accompagné. Et tous les extraits, pour répondre à Thomas, Thomas VDB, tous les extraits que vous avez entendus sont sur ce disque Promised Land de The Allergies, déjà disponible. C'est une tuerie, mes amis. Oh, voilà.
Bah, merci Alina Fadoukoé. C'était canon. Il est 17h38 sur France Inter. Notre invité, c'est Martin Messonnier. C'est plusieurs carrières, évidemment. C'est producteur de musique, c'est réalisateur, compositeur, journaliste, auteur. Et sa série documentaire, Le Bonheur à l'école, est à découvrir à partir du 30 janvier sur Canal Plus Kids et MyCanal. Guillaume Meurice est à redécouvrir tous les jours.
Tous les jours. Je vais vous parler du rapport d'Oxfam aujourd'hui. Oxfam, c'est pas la contraction de Hawks et de femmes. Hein. On parlera donc pas de canular et de féminisme. Donc pas de Marlène Schiappa. Hein, désolé pour les femmes. Non, Oxfam, c'est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités et qui sort un rapport aujourd'hui qui nous apprend que les milliardaires se sont plus enrichis pendant la pandémie que pendant les 10 dernières années. Et là, on parle en milliards de naguis, hein, qui est la mesure de la richesse en France Inter, je vous le rappelle. En France, d'ailleurs, les 5 premiers ont doublé carrément leur richesse. Bernard Arnault est au top du top. Bernard Arnault, à ne pas confondre avec Juliette Arnault.
Ah ouais.
Vous voyez, à un prénom près, vous voyez, des fois, ça peut foutre la merde. Vous voyez, Émile Louis, Édouard Louis, pas du tout le même délire, hein, faites attention à ça. Bernard Arnault, sa fortune, donc, c'est plus de 3 millions d'années au SMIC. 3 millions d'années au SMIC. Même Jean-Yves Le Drian n'était pas né à l'époque. 3 millions d'après, c'est à peu près l'âge de Lucie, l'australopithèque, sur qui on a retrouvé d'ailleurs aucun contrat de travail. Encore une putain d'assistée, entre parenthèses. Un témoigne sans tatouage, Philippe Poutou 2022 sur son occiput. Alors évidemment, suite à ce rapport, les Français sont sortis en masse dans la rue pour faire la révolution. Et je suis allé à leur rencontre ce matin.
Ça fait des siècles et des siècles qu'il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, non?
Mais les inégalités semblent se creuser, en tout cas là.
Oui, mais enfin, il suffit de donner de temps en temps un coup à gauche et c'est reparti.
Ah, donc c'est-à-dire de temps en temps, il faut voter à gauche?
Oui.
Vous votez à gauche de temps en temps?
Ça fait longtemps que j'ai pu voter à gauche.
Oui, la dernière fois, c'était le canuet, hein, je pense. Mais ceci dit, c'est une bonne stratégie. On laisse les ultra-riches se gaver et une fois de temps en temps, paf! Un petit vote Nathalie Arthaud et c'est reparti. Alors, faudrait qu'on se coordonne par contre. Ouais. Parce que pour l'instant, ça ne marche pas, la stratégie. Pauvre Nathalie. Allez, en attendant, les ultra-riches, ils profitent, ils spéculent.
Est-ce que le fait de spéculer va défavoriser les pauvres?
Ah ben, ça va les défavoriser quand même.
En quoi?
Ah ben, c'est-à-dire qu'ils ont moins accès à des services publics, par exemple, comme de plus en plus de choses sont privatisées.
C'est-à-dire, je vais vous dire franchement, moi, je suis relativement aisé. Mais par rapport à mes relations, à mes amis, je suis smicard.
À partir de combien on est riche par mois?
Riche, je dirais 20-25 000 euros par mois.
Oui, voilà, c'est relatif. Bien sûr, c'est vrai, en dessous de 20 000 balles par mois, c'est compliqué. Hein. Comment on fait pour s'acheter une baguette de pain à 275 euros hein? Ticket de bus à 1 800 balles, on est fou. Faut voir la réalité en face, quand même en France. Même si cette richesse, bien sûr, pose des questions.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition des richesses?
Non, mais c'est pas le même sujet, ça.
Ah on a l'impression que
c'est... Non.
Ah si Bernard Arnault, il redistribuait sa fortune...
Bernard Arnault, il a bien fait un don de 100 millions pour Notre-Dame.
Ouais.
Bon, ça, il faut le voir aussi.
Mais pas pour le Secours Populaire.
Peut-être.
C'est sûr qu'il craint plus de ne pas pouvoir rentrer au paradis que de devoir aller demander une soupe un soir d'hiver, je pense. Il est malin. Bernard, il est malin. On ne peut pas lui enlever ça, il est malin. Moi, j'aimerais juste que le paradis existe et que Bernard, quand il meurt, il soit accueilli par l'abbé Pierre. Juste comme ça pour être attaché à côté, pour le voir, voilà, se prendre un bon coup de canne dans les gencives. Mais bon, pour l'instant, Bernard, il n'en est pas là.
Hein. Il fait de l'emploi, c'est un homme qu'il faut bénir.
Ah, il faut bénir Bernard Arnault.
Naturellement, mais c'est ceux qui ne travaillent pas qu'il faut foutre à la porte de la France. Oh, c'est tout, à la porte de la France, on n'en veut pas ces gens-là.
Mais alors quand Bernard Arnault, il vire des gens?
C'est pas lui qui vire, c'est peut-être son équipe, un membre de son équipe.
Oui, c'est vrai que c'est pas lui qui vire directement les gens, les ouvrières du nord de la France, quand elles se sont faites virer. Bernard, il a pas pris son téléphone pour les appeler. Il embauche des gens pour virer des gens, ça crée de l'emploi. Quand je vous disais qu'il était malin, vous ne me croyez pas, on va regarder avec vos yeux de gauchias, non. Hein, voilà. Vous pigez un petit peu l'économie ou pas? Prenez des cours, faites comme moi. Moi, je prends les cours du soir avec Dominique Seux, je commence à avoir un bon niveau. Allez, c'est pour ça que Bernard est riche, bien évidemment, même si...
Est-ce qu'il n'y a pas une question d'indécence d'avoir autant d'argent?
Mais non, c'est pas indécent.
Bernard Arnault, des fois, il ferme des usines pour s'enrichir personnellement.
Non.
Bah si.
Non, il n'y a pas d'enrichissement personnel.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit enrichissement personnel?
Mais non, absolument pas.
Vous voyez, j'étais encore naïf là-dessus, je croyais que si. Mais non, c'est un gars qui est dans le sacrifice permanent, Bernard. Il ne fait pas ça pour s'enrichir personnellement. Contrairement, je vous rappelle, au SDF. quand vous donnez une pièce au SDF, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va acheter un sandwich à la con, de mauvaise qualité d'ailleurs souvent, et une 8-6. Alors qu'un riche, vous lui donnez de l'argent, eh ben, il va investir. Du Jeff Koons, voilà, il crée de l'art, ben voilà, une entreprise, c'est ça la différence, et c'est ça que veulent pas comprendre les SDF. De toute façon, un SDF, il veut pas être autre chose qu'un SDF.
Vous ferez jamais dormir un SDF dans un hôtel, c'est pas possible. Il vit dehors, c'est son truc.
Il le mérite alors.
S'il est arrivé à ce stade-là, c'est qu'il y a eu une incompétence dans sa vie.
Qu'est-ce que ça veut dire une incompétence dans sa vie?
Mais il y a deux termes clés dans la vie, c'est la compétence et l'incompétence.
Mais ça veut dire qu'un SDF, il est incompétent?
Parfaitement.
Et oui, mais voilà. Mais c'est ça qu'il y a à comprendre. Voilà, le SDF est incompétent et l'ultra riche est ultra compétent, évidemment. Et tant qu'on continuera à être ultra compréhensif avec les ultra riches, ils continueront à nous prendre pour des ultra cons.
Voilà, simplement. Guillaume Meurice, qui commence très très bien la semaine. Attention, ça va aller crescendo. Revenez demain, bien sûr. Mais vous restez avec nous. À venir, Thomas VDB, qui se prépare.
Qui s'hydrate.
Et Martin Messonnier, en notre compagnie. On va aborder ce thème avec Juliette Arnoux.
La commission parlementaire qui enquête sur l'assaut du Capitole a une question bien précise à poser à YouTube, Facebook ou Twitter. Une question grave. Ont-ils, ces réseaux sociaux, contribué à la propagation de la désinformation et de l'extrémisme violent? Et forcément, les géants des réseaux sociaux renaclent à répondre. Si les Américains ont du mal avec le concept d'interrogatoire, nous, les Français, on est tout à fait en mesure de les aider.
Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera filmé intégralement.
Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. Sébastien, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué.
Mademoiselle Doré, je vous informe que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de vos rapports avec les victimes, messieurs Jacques et comment s'appelle l'autre?
Mireille.
Monsieur Mireille.
Aucun. Je les ai engagés pour projeter le film. Ils sont morts.
C'est donc le deuxième meurtre autour de ce film. C'est bon pour la publicité, ça.
Écoutez, je ne les ai pas tués, si c'est ce que vous avez en tête. Vous n'avez qu'à me faire passer au détecteur de mensonges.
Pourquoi pas?
Ça va pas être possible, chef. Il y a Bestel qui a voulu essayer un truc. Il a branché le détecteur sur sa CB, ça fait...
Vous aurez peut-être reconnu le film La Cité de la Peur, le film des nuls, et on entendait Gérard Darmon et Chantal Lobby. C'est vous qui avez choisi ce sujet sur la commission parlementaire américaine. Donc
Oui, je me disais que c'était intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. On ne parle pas beaucoup des problèmes démocratiques qu'ils ont aux États-Unis en ce moment. En fait, on s'aperçoit quand même que les républicains sont en train de changer beaucoup des lois pour qui permettent de voter afin de rendre le vote de plus en plus difficile. On a un Joe Biden qui est de moins en moins populaire. Il est moins populaire que Trump était quand il était au plus bas niveau. Et il y a les élections de mi-mandat qui arrivent. Donc on va se retrouver bientôt avec un congrès qui est républicain, avec Trump en toile de fond, quoi. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour nous Français de s'intéresser à ça, parce que ça va changer beaucoup de choses, justement, vis-à-vis de la politique étrangère et tout ça. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir tous ces républicains qui mentent effrontément au Congrès, qui mentent en disant que les élections ont été truquées, et ils continuent à mentir après avoir dit que Trump était responsable de l'attaque contre le Capitole. Maintenant, ils disent non, il est pas responsable et ça. Et en fait, ce qu'on oublie de dire, et c'est que en fait, ils mentent parce qu'ils pensent que ils veulent faire une théocratie et qu'ils pensent que Dieu tient leurs mains et que.
Alors là, on sent le monsieur qui a fait un documentaire sur les évangélistes.
C'est un peu ça. Et en fait, je trouve que c'est un truc dont on parle pas, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même. C'est le fait qu'ils mentent effrontément comme ça, c'est qu'ils veulent vraiment que la Bible remplace la Constitution. Quoi.
Alors sur le mensonge, justement, le gouvernement américain a fait arrêter un des fondateurs d'une secte d'extrême droite, et le type, dans un message qu'il envoyait à ses copains juste avant l'assaut du Capitole, précisait « ça serait bien qu'on empêche le transfert pacifique du pouvoir ». Bon, on appelle ça la démocratie, en fait. Donc oui, je pense que sur le détournement même des mots... Il y a un passage qui se fait. Mais vous, ce qui se passe en ce moment, c'est le citoyen inquiet ou c'est le documentariste qui a été choqué par les photos des gens en émeute qui commencent à rentrer dans le Capitole?
En fait, moi, ça fait longtemps que je savais que ça allait arriver Puisqu'en fait, moi, j'avais fait ce film il y a 17 ans. C'était un film qui s'appelait « À la droite de Dieu ». Et j'avais été interviewé les chefs évangéliques qui m'expliquaient comment ils allaient prendre le pouvoir systématiquement à tous les niveaux, des commissariats, à la cour d'école, aux réunions de parents, à la députation. Ils expliquaient, leur plan était clair depuis, ça fait 40 ans qu'ils travaillent dessus. Et en fait, ils se réveillent le matin en se disant comment on prend le pouvoir. Nous, on se réveille pas le matin en se disant, voilà, mais eux, c'est ça. Et ils sont en mission. Et donc, en fait, on a tous ces gens qui sont en mission et qui peuvent se permettre de mentir parce que c'est Dieu qui leur permet. Et c'est les pasteurs qui...
C'est bien fait.
Voilà. C'est assez réussi, quoi.
C'est bien fait, effectivement.
Donc, voilà. on peut s'en inquiéter. Et alors, nous, bon, en France, ils nous aiment pas du tout parce qu'on est vraiment un pays laïque. Ça, ils aiment pas du tout ce genre-là.
En tout cas, Fabienne Sintès a consacré un jour en France récemment à cette attaque du Capitole et donc sur la chaîne par le truchement de Fabienne aussi qui était correspondante aux États-Unis. Heureusement, on en parle et je vous renvoie bien sûr à ses émissions. Il peut parler de tout, Martin Messonnier, c'est fou. Vous allez voir, après on va le lancer sur la musique de la world music.
Et il va dérouler.
Et il va dérouler, c'est incroyable.
Il va finir chroniqueur à part Jupiter.
Thomas VDB, c'est quoi un bon chroniqueur à part Jupiter?
Donnez-moi
un exemple.
C'est ça. Alors hier c'était le 400e anniversaire de Molière et Molière c'est un trésor national. Et évidemment la première chose qui vient en tête à tout le monde quand on parle de Molière c'est qu'il était marié avec sa belle-fille comme Woody Allen. Et normalement il devrait être cancel. Allez, ça dégage Molière. Il est cancel Molière. Je demande le retrait du livre de Molière de toutes les bibliothèques de France. Ah non, je rigole, on va pas cancel Molière. Pas le jour de son anniversaire quand même. Puis il est sympa, Molière, comme on dit à la Comédie française, Momo. Certains l'appelaient Momo, d'autres l'appelaient Popoc. Voilà, et c'est vrai que les Français adorent Molière. D'ailleurs, avec ma compagne, on aime tellement Molière qu'on a appelé notre fils Ganarel.
Oh. Oui, c'est vrai, c'est joli.
Et c'est vrai que Molière, il fait partie de ces rares personnes qui ont carrément un prix à leur nom. Et c'est vrai que avec César et Pierre Palme d'Or, j'en connais pas d'autres. Et d'ailleurs, pour parler de la langue française, aujourd'hui, on dit encore la langue de Molière. Et c'est vrai que quand ton nom définit une langue, c'est que t'as pas fait beaucoup de fautes de liaison dans ta vie, quand même. En 4 siècles, il s'est jamais fait détrôner le titre par un autre. C'est vrai qu'on dit pas du français que c'est la langue de Victor Hugo. On dit pas que c'est la langue de BHL. Alors imaginez dans 100 ans si on dit du français que c'est la langue de Bigard. Sûrement qu'on aura peut-être vrillé un peu quelque part. Mais aujourd'hui, comme son anniversaire à Molière, il tombe pile pendant les présidentielles, tout le monde veut montrer qu'il adore Molière. Alors Valérie Pécresse, elle veut le faire entrer au Panthéon. Et c'est vrai qu'en 3 jours, c'est quasiment devenu la mesure phare de son programme, Valérie Pécresse. Et Emmanuel Macron, il a pas voulu, soi-disant, que Molière, il est pas né les bonnes années pour entrer au Panthéon. C'est marrant quand même de faire la fine bouche sur Molière. Là, attends, si on commence à faire entrer Molière, c'est la porte ouverte à tout le monde, à ce moment-là, on a qu'à faire entrer Paul Prébois, Et c'est comme l'impression que Molière, il voudrait rentrer dans une boîte hyper sélecte, mais il a pas le bon dress code, quoi. Il est à l'entrée du Panthéon, mais je suis Molière! Et le videur, il est là, vous êtes cancel, monsieur, vous dégagez. Et pourtant, tu te dis, Molière, c'est vrai que c'était le premier comique payé par l'État. C'est un peu notre ancêtre à France Inter. Il fait un peu comme nous, il se moquait des gens au pouvoir, il faisait des blagues sur l'actu. Molière, c'est un peu Guillaume Maurice avec des petites bouclettes. C'est vrai. Si un comique qui, comme Molière, risque de mourir en plein boulot actuellement, c'est bien toi, Guillaume. Molière, tu cherches aussi, c'est moi. Ça, aujourd'hui, Molière, elle se ferait allumer sur Internet. Tout le monde serait là, encore un soi-disant rigolo payé par Magabelle. Les gens seraient dégoûtés. Et d'ailleurs, c'est fou, sur les réseaux sociaux, tu te dis, ça aurait été un sacré commentateur de l'actu, Molière. Couvrez donc ce vaccin que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela vous permet de capter la 5G. Morbleu, cet attribut dont je vois la photo, il ne peut que s'agir de Benjamin Griveaux. Et parfois, c'est vrai, je me demande ce que Molière, il dirait tout ça aujourd'hui. Enfin, je me le demande jamais, mais en l'occurrence, pour ma chronique, je me suis demandé. Non, parce qu'hier, chez moi, j'avais des amis à qui je disais que j'allais parler de Molière aujourd'hui dans ma chronique. Et tout le monde, à un moment, ils ont commencé à se demander pour qui aurait voté Molière aujourd'hui. Et il y en avait qui étaient sûrs que Molière, il aurait voté Mélenchon. Et les autres, ils étaient, il aurait voté Zemmour. Et je suis là, mais moi, je pense que Molière, il aurait dit, vous avez le droit de vote. C'est ça qui aurait été Molière. C'est vrai, je me dis, est-ce qu'il serait fier de se dire que ce qu'il dénonçait il y a 400 ans, c'est encore d'actualité aujourd'hui? Ou est-ce qu'il se dirait, non, mais ils sont teubés ou quoi? 4 siècles plus tard, ils ont rien compris à ce que j'écrivais. Non, mais je suis enseigné à l'école, en plus. C'est vrai que depuis Molière, on se dit, rien n'a changé, et même pour nous. on fait des blagues sur l'actu qui n'ont aucune conséquence. Je veux pas pourquoi on continue. Alors qu'on devrait se dire, non, mais même Molière a parlé aussi, pourquoi on se casse la tête, franchement. Et aussi, je dois dire que ben Molière, avec le guitariste du groupe Pantera, ben, c'est le seul artiste que je connaisse qui soit mort sur scène. Mais bon, s'il y a des auditeurs qui connaissent le groupe de métal texan Pantera, ils seront d'accord avec moi pour dire que c'est probablement le seul point commun qui est entre Pantera et Molière. Ce que écoutez, c'est ça, Pantera.
À Molière, il y avait les trois coups, hein, puis là, c'est...
Ouais. Voilà, bon, on a quand même un petit peu plus de mal à compter les alexandrins. Merci à tous.
Thomas VDB, merci beaucoup pour ce bel hommage, vraiment. Martin Messonnier, l'an dernier, les Américains ont renoncé à utiliser le terme world music, jugé trop colonialiste. Au Grammy Awards, cette catégorie a été rebaptisée Best Global Music Album. En France, ça pose pas de problème, il y a juste que la catégorie musique du monde a été déplacée vers les victoires du jazz. Et comme dirait Lema, on est même assez content de ne pas être classé en musique française, en fait. En tout cas, en France, on n'y voit pas de néocolonialisme. La preuve, petit extrait de World Music.
Le vrai président de tous les Français, l'ami de Bongo et des Gabonais, l'ami de l'Afrique et des Africains, ce président-là, c'est Giscard d'Estaing.
Ah ben voilà. World Music, absolument pas colonial. Alors Martin Messonnier, vous avez été producteur dans les années 80 de Fela Kuti, Ray Lema, Manu Dibango, Papa Wemba. Vous vous êtes toujours senti un peu différent?
Ce qui était le plus excitant à l'époque. C'était vraiment nouveau, c'était frais et tout ça. Je me sentais bien là-dedans parce qu'on c'était un peu de la découverte quoi. Ouais. Maintenant aujourd'hui voilà, je me sens bien avec ce qu'ils font de l'électro africain, c'est-à-dire Black Coffee, il y a aussi Wizkid, il y a plein de trucs passionnants qui se passent en Afrique.
Le statut de la World Music, elle a changé en France depuis les années 80.
Non mais le statut, moi je trouve ça jamais existe. Enfin moi je me suis intéressé à des artistes, jamais intéressé à un genre de musique dans lequel on les classe. Je pense que tout ça, c'est effectivement, c'est des histoires de marchands de disques qui veulent classer ça pour pouvoir mettre ça dans des bacs, dans le dire, voilà, vous allez trouver vos disques là, alors on va mettre World Music ou Musique du Monde, parce que comme ça, on peut trouver les disques. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi.
C'est un fourre-tout, en fait, ce terme, en plus.
Oui, c'est ça.
Ça ne dit pas le genre de musique.
C'est la musique des autres, quoi.
C'est la musique du soleil. Là-bas, on ne sait pas trop.
Moi, un jour, je suis allé aux États-Unis et je regardais dans un magasin de disques à New York le rayon World Music et j'ai trouvé des disques de Jacques Brel dedans. Vraiment, il y a Jacques Brel et Georges Brassens, c'est en World Music. C'est tout ce qui n'est pas du pays et ce qui n'est pas anglo-saxon aussi. Parce que c'est vrai que les rayons anglo-saxons, ils ont leur rayon à eux. Mais après, dès que ça chante en allemand, bon, c'est vrai que c'est moins intéressant.
Ça veut dire qu'on est tous le World Music d'un autre.
Absolument.
Et donc les cérémonies de promo, de variété, d'avoir cette catégorie dans les Victoires de la Musique, ça n'a pas tellement aidé.
Non mais Victoires de la Musique, c'est un spectacle, une émission de télé du siècle dernier, quoi. C'est-à-dire que là, on est à une époque où il y a les cinq premiers du top, c'est des indépendants qui font du rap en général, ils ne sont même pas invités. Les Victoires de la Musique, c'est les maisons de disques qui votent pour eux et pour leurs collègues. Mais en fait,
donc c'est pas très représentatif.
Comme maintenant, il y a les indépendants. Alors, par exemple, Jul, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et tout ça. Bon, lui, il sera pas aux Victoires de la Musique. C'est pas très normal, quoi.
Voilà. Martin Messonnier, on va poursuivre avec un questionnaire de Par Jupi Proche, le feu roulant des questions de Juliette Arnaud.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, du lieu où c'est facile de trouver le bonheur, 10 tout en haut, c'est le pré. Voilà, on y est. 0 étant la chanson de Christophe Maé, parce qu'il sait pas. À combien vous situez l'école?
À l'école, 5.
Ni plus ni moins.
Au milieu.
Ouais. Allez, au milieu. Imaginez, quelle école serait pour vous l'école du bonheur? Est-ce que c'est l'école de la vie, bisous Léa Seydoux? Est-ce que c'est l'école buissonnière, bisous Thomas BDB? Ou est-ce que c'est l'école du micro d'argent, bisous Ayam?
Ouf! Moi je dirais l'école buissonnière.
Bien sûr, comme par hasard. Hein, comme par hasard.
Voilà.
Si vous pouviez à nouveau suivre le cours d'un prof ou d'une instit que vous avez eu spontanément, c'est qui et c'était quelle matière?
Moi j'avais un prof de musique qui était fascinant.
Ah
voilà.
Qui était absolument incroyable. Il s'appelait Renaud Gagneux, qui est décédé récemment. Qui était un compositeur de musique, qui ses œuvres étaient jouées par Rostropovitch et tout ça. Et en fait, moi, je l'ai eu comme il était tout jeune. Et en fait, c'était le premier cours de musique dans les années 70. C'était le 19 septembre. Et il arrive en cours et il nous dit, voilà, il y a un truc très triste qui s'est passé. C'est Jimi Hendrix est mort cette nuit. Alors, on va fermer les rideaux et on va écouter Jimi Hendrix. Vous mettez la tête dans le...
Ah, génial.
Et après, il nous a expliqué Jimi Hendrix.
Et ensuite, vous êtes devenu musicien.
Voilà.
Vous avez participé au Parlement du féminin. Si la chance vous était donnée de faire femme dans une autre vie, vous voudriez être qui? Vous pouvez tout à fait répondre comme les L5, toutes les femmes de ta vie.
Bien sûr. Là, je dois dire. Oh, il y en a plein.
Une.
Waouh.
Jeanne d'Arc? Vous avez fait un documentaire sur...
Absolument, oui. Oh, ouais, Jeanne d'Arc, non, pas vraiment, genre, ça serait pas mon genre. Enfin, Jeanne d'Arc âgée, oui, ça serait bien.
Bon, Jeanne d'Arc aurait vécu, donc. Une dernière question, vous avez fait de la musique avec Jimmy Page et Robert Plant.
Absolument,
du Led
oui.
Zeppelin. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer enfin. On le choupou, cet escalier pour le paradis.
C'est une vraie question.
Vous n'avez pas de réponse?
C'est dans la tête.
Martin Messonnier, merci d'avoir passé ce moment avec
plaisir.
Nous. Je rappelle votre série documentaire qui s'intitule « Le bonheur à l'école ». À découvrir à partir du 30 janvier sur Canal Plus Kids et My Canal. Et vous savez, vous êtes sur la chaîne des enseignants, un petit peu France Inter, donc le bonheur à l'école, ça va tellement leur parler. Merci beaucoup. Merci à tous les amis, c'était un plaisir. Et à demain, nous recevrons le journaliste sportif Philippe Doucet, l'inventeur sur Canal Plus de la palette. C'est ça.
Dommage qu'il n'y ait pas une nappe en papier, je te ferai un croquis.
Et oui, moi, j'ai pas compris. Mais je te prendrai demain.